مال حبيبي ماله قديم ومدع مرجع ومحل عيونك الذهبية.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le 102.3 FM. Nous sommes le samedi 23 janvier de l'année 2010, 10 ans après le bog de l'an 2000. Bonsoir Wahid.
Bonsoir Issa.
Bonsoir Lamine.
Bonsoir Issa.
Bonsoir Rano à la technique. Rano, c'est grâce à lui que la mise en onde de l'émission de ce soir est possible, bien sûr. Le choix musical aussi, c'est lui. Alors, si vous n'aimez pas la musique, c'est à lui, c'est à Rano qu'il faut s'en prendre.
Et c'est grâce à lui que notre voix est transmise.
En plus,
en plus,
ouais.
C'est pas
alors même
là.
Notre voix, si elle vous plaît pas, c'est avec lui qu'il faut voir.
Parce qu'il peut couper les micros.
Ben oui. Nagbab Ashra. Alors, entamer l'émission de ce soir en occultant ce qui se passe pas très loin de chez nous en Haïti, plus précisément à Port-au-Prince et dans ses environs, serait une insulte aux victimes du terrible tremblement de terre d'il y a à peu près 12 jours maintenant. Le pays entier commence à peine à respirer, à panser ses blessures, donc on ne peut pas occulter ça. Il faut en parler pour entretenir l'espoir pour le peuple haïtien, pour tous ces gens qui souffrent le martyre depuis 12 jours. Le peuple haïtien qui commence à peine à respirer et avoir accès aussi, surtout, à l'aide alimentaire qui afflue de partout à travers le monde. Et pour cela, il faut saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour venir en aide au peuple haïtien, un peuple qui souffre déjà en temps normal. Alors, qu'est-ce que ça doit être maintenant avec cette terrible catastrophe ?
Tragédie.
C'est une véritable tragédie, bien sûr. Il faut le souligner. Mais l'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre. Il faut toujours garder espoir, justement. Cet après-midi, il y a eu une 133e personne qui a été extraite des décombres. Le 133e survivant a été sorti des décombres depuis cette catastrophe. Un jeune de 23 ans, il aurait survécu grâce au contenu d'un magasin dans lequel il était coincé. Donc il avait accès à quelques denrées et surtout à du Coca-Cola. C'est lui qui a fait cette déclaration. Il a dit, j'ai bu beaucoup de Coca-Cola. Lui, dans son malheur, il a été chanceux. Et puis hier vendredi, un autre jeune homme de 22 ans, une femme de 84 ans avait été également retrouvée vivant. Mais la vieille dame qui a été transférée vers le navire hôpital de l'armée américaine qui croise au large des côtes haïtiennes, elle, son état est jugé très grave et sa survie ne tiendrait qu'à un fil, d'après les médecins qui sont en train de la soigner. Par ailleurs, et puis un peu partout à travers le monde, les artistes de la planète entière se sont mobilisés eux aussi pour la cause haïtienne. Aux États-Unis, par exemple, le concert Hope for Haiti, Espoir maintenant pour Haïti, a permis de rassembler autour de 60 millions de dollars de dons grâce à la participation de nombreuses vedettes américaines, que ce soit de la chanson, de la télévision, des acteurs, des comédiens, etc. Et puis chez nous ici au Québec aussi, il y a eu toutes les grandes chaînes qui ont retransmis hier, toutes les chaînes de télévision qui ont retransmis un spectacle animé par Luc Merville et France Baudouin. Au même moment, une initiative similaire avait lieu dans le Canada anglais.
C'était 7 millions de dollars
au total, 6,8 millions de dollars. Pour les deux télétons, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le Canada, l'argent a afflué. Les gens ont mis la main à la poche et ont fait des dons extraordinaires. Et parmi les dons qui sont à signaler, c'est celui de la chanteuse québécoise Céline Dion et son mari René Angélil qui ont fait un don de 500 000 dollars. Il faut le faire, il faut les saluer eux aussi. Un autre don qui mérite d'être signalé, c'est celui de l'Algérie qui a offert 1 million de dollars comme première aide, en attendant de connaître les véritables besoins.
Mais un commentaire dans ce sens-là, et ça, on a quand même remarqué un retard dans l'aide des pays arabes en général et de l'Algérie entre autres. Je pense que
je ne sais pas si
on n'a pas compris pourquoi.
Je ne sais pas si c'est l'information qui circule mal. Moi, par exemple, j'ai eu l'information de ce don de l'Algérie grâce à l'APS. Okay. Je ne sais pas si ça n'a pas été repris, pourquoi ça n'a pas été repris par la presse algérienne, ou peut-être qu'on a mal lu, on n'a pas été sur les bonnes pages.
Ouais, peut-être.
Mais le fait est là, il y a eu un don de l'Algérie dès l'annonce du tremblement de terre, l'Algérie qui a elle-même souffert de ce genre de tragédie.
Il y a aussi une équipe médicale algérienne.
Exactement, il y a un avion rempli de dons, de denrées alimentaires, de couvertures, de temps, etc., qui a atterri à Port-au-Prince 4 ou 5 jours après le tremblement de terre. Donc ça c'était la partie réservée à la tragédie haïtienne. Et puis bien sûr, tu dois le deviner, Lamine, tout comme Wahid, ce soir il va être question de football aussi, de soccer, puisque demain la Coupe d'Afrique rentre dans son dans sa partie la plus importante et la plus intéressante, les quarts de finale. Et comme nous le savons tous, l'Algérie y est qualifiée. Bon, pour ce qui est de la qualification, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais l'Algérie disputera demain un quart de finale contre l'une des meilleures équipes africaines de ces dernières années, sinon la meilleure, la Côte d'Ivoire, une équipe truffée de grandes vedettes qui évoluent partout dans les grandes équipes en Europe, dans les meilleurs clubs européens, des joueurs comme Drogba, comme Eboué, ce ne sont pas des joueurs qui courent les rues et qu'on trouve n'importe où, c'est des joueurs aux qualités connu et reconnu. Donc l'Algérie disputera un quart de finale demain dans la province du Cabinda, la province de triste mémoire où a eu lieu l'attaque contre l'équipe du Togo qui avait fait deux morts et plusieurs blessés. Mais apparemment les autorités angolaises auraient renforcé la sécurité en prévision de ce quart de finale. Et puis il va y avoir aussi d'autres quarts de finale, bien sûr. Le deuxième quart de finale demain, c'est celui qui opposera l'Angola
avec le Ghana, et ce serait le premier qui va se disputer à 11h heure de Montréal.
C'est ça, à 17h heure locale et 11h le matin demain, heure de Montréal.
Je pense que les grands défis aussi, ou les beaux matchs aussi, c'est le deuxième jour des quarts de finale avec Cameroun-Égypte.
Exactement, ça ce sera lundi.
Et Nigeria-Zambie.
Cameroun-Égypte et Nigeria-Zambie. Des équipes parmi les meilleures en Afrique depuis longtemps, à part la Zambie, pour qui c'est je crois que c'est une première. Je crois que la Zambie va disputer son premier quart de finale.
C'est
son premier quart de finale. Une équipe qui n'a pas l'habitude de damer le pion aux grandes équipes, aux grandes nations qui ont.
J'ai des doutes, dans les années 84-86, ils ne sont jamais arrivés en quart de finale.
En quart de finale, non, je ne pense pas. Non, le premier tour, oui, mais.
Parce qu'il y avait une demi-finale directement. C'est très récent, parce qu'il y avait les deux groupes, puis il y avait les demi-finales. Donc tu as raison.
Oui, je pense que ça va être son premier quart de finale. Algérie, Côte d'Ivoire. Nous allons marquer une courte pause, le temps d'écouter une chanson. Et puis tout de suite après, nous allons justement parler.
Analyser avant ce qui s'est passé au premier tour.
Oui, justement, nous allons le faire avec un spécialiste, avec quelqu'un qui est entraîneur, un grand joueur, un nom du football algérien, Hamid Boujnoun, l'ancien joueur du Chabab de Belcourt. Belouzdad maintenant, mais avant c'était le Chabab de Belcourt. Hamid Boujnoun qui a fait partie de la grande équipe du Chabab de Belcourt, des Lalmas, Achour, Kalem, Selmi, Hamiti, Hamid Mohalla, Rahmo, Abrouk, Ammar, etc. Hamid qui vit au Canada avec nous depuis quelques années, qui est entraîneur à Laval, je crois. Il est responsable, il est directeur technique de toute la région de Laval.
Le Delta, je pense, Laval-Ouest.
Donc c'est avec lui qu'on va parler de ce premier tour et de ces quarts de finale. Et avec vous, bien sûr, si ça vous dit, sur le 495-1540. Avant ça, nous allons écouter la contribution de la communauté algérienne du Canada au succès de l'équipe nationale algérienne de football, puisque Karim Saada a eu l'ingénieuse idée de composer, de faire une chanson pour vanter les mérites et les exploits de nos chers Fenech, une chanson qu'on va écouter avec plaisir et tout de suite, en espérant qu'elle ait le succès qu'elle mérite. Vous allez le voir, c'est une chanson qui est très bien faite, très rythmée. C'est parti avec Karim Saada.
كريم سعادة من مونتريال كندا في خاطر المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم حارس ما مقواوي حل
عيش عنطر يحيى مجيد بوكرة لا فريد متمول كريم زياني والحاجة جمهور من صغير في قصي في سادة فكرنا في زمان جيبوها هيا ليش جيبوها جيبوها للجزائر جيبوها جيبوها هيا ليش جيبوها جيبوها مجنوب إفريقيا جيبوها علمنا هيا ليش علمنا علمنا يرفر في جنوب إفريقيا علمنا هيا ليش علمنا علمنا
Jibouha Yaloulad, version Karim Saada, une chanson à qui on souhaite bien sûr beaucoup de succès ici et en Algérie, puisque le contenu, si vous l'avez remarqué, parle, le contenu de la chanson parle d'Afrique du Sud, donc c'est une chanson pour la Coupe du Monde et bien sûr pour cette Coupe d'Afrique et surtout pour ces quarts de finale de demain. Je vous disais tout à l'heure que Ranou était responsable de la musique ce soir. J'espère qu'il va lever la tête pour me regarder. Oui, il va le faire. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir Hamid Boudjounoun, l'ancien joueur du Chabab de Belcour, en ligne. Hamid, bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir Lamine, bonsoir amis sportifs.
Comment ça va, monsieur Boudjounoun?
Ça va très bien, merci.
Ça va en forme. Et comment vous avez vécu ce premier tour de la Coupe d'Afrique, vous, en tant que technicien, en tant qu'entraîneur et en tant qu'ancien joueur? Comment vous avez vu les trois premiers matchs de cette Coupe d'Afrique qu'a disputé notre équipe nationale? Le premier contre le Malawi qui...
J'ai vu le match comme tous les Algériens, un peu stressé, un peu optimiste, parfois pessimiste, mais dans l'ensemble, c'était positif parce que l'équipe nationale d'Algérie est passée au deuxième tour. Maintenant, concernant le premier match contre le Malawi, je peux le qualifier de médiocre pour les événements que tout le monde connaît. Donc, ils ont joué en pleine chaleur à 14h30, donc avec un taux d'humidité très élevé. Le deuxième match était correct dans la mesure où on a battu une très belle équipe du Mali. Et le troisième match contre l'Angola, je pense qu'il était passable dans la mesure où on a géré le résultat. On a géré le résultat et s'arranger les deux équipes. Donc, l'équipe a présenté, je pense, un visage très séduisant, surtout contre le Mali où ils ont gagné avec 10 ans la manière.
Le premier match, pour revenir au premier match contre contre le Malawi. Il y a eu une polémique autour de l'endroit qu'avait choisi le staff technique et la fédération algérienne pour préparer l'équipe nationale pour cette Coupe d'Afrique. Rabah Saadane avait préféré aller se préparer en Europe, dans la région de Toulon, plus exactement en France. Région où il fait en hiver froid, mais cette année ça a été exceptionnel, c'est vrai. D'ailleurs, même Rabah Saadane l'avait dit, qu'on avait été trahi par la météo. Mais comment vous expliquez ce choix, alors que toutes les autres équipes africaines s'étaient déplacées ou en Afrique ou au Moyen-Orient pour se préparer, alors que Saadane a choisi l'Europe?
Moi, je suis d'abord tout à fait d'accord avec Saadane pour les arguments qu'il a donnés. Saadane est un professeur quand même en méthodologie, donc qui a affaire à des joueurs professionnels qui ont l'habitude de jouer sous tous les climats. Imaginez un joueur qui joue à Marseille, il va jouer à Lille en hiver, c'est pas la même température, il s'adapte. Donc moi, le seul problème, la seule chose qui m'a un peu inquiété pendant la préparation, c'est le manque de matchs. Le manque de matchs amicaux que l'Algérie n'a pas conclu avec d'autres nations pour se préparer. Donc moi, je ne tiens pas beaucoup, je ne donne pas beaucoup d'importance à ce volet, tout simplement parce que pour moi, il est dérisoire.
Mais M. Boujoun, quand même, je comprends la comparaison par rapport à Marseille, entre Marseille et Lille, mais quand même, on parle d'un climat d'hiver, puisque dans la région, au nord de l'Équateur, c'est l'hiver, et au sud, c'est l'été. Est-ce que vous ne pensez pas que la différence n'est pas seulement une différence de température de la même saison, mais quand même, c'est actuellement, c'est l'été là-bas en Angola?
Mais je pense que les joueurs sont préparés pour, hein. Donc c'est des professionnels, je pense qu'ils s'adaptent à toutes les situations. Mais moi je pense que la chaleur était peut-être étouffante, parce que j'ai joué déjà, moi, quand j'étais joueur en équipe nationale, on a joué en Syrie pendant le mois d'août vers 14h, on a joué contre le Maroc, c'était vraiment vraiment très très difficile, on pouvait même pas, d'ailleurs marcher en été c'est déjà difficile, hein. Donc quand il s'agit de courir, sauter, frapper dans un ballon, donc ça devient encore plus pénible.
Donc, monsieur Boujnoun, le fait que Rabah Saadane ait choisi et opté pour un endroit où il faisait relativement froid par rapport à l'endroit où on allait disputer cette Coupe d'Afrique, vous le comprenez, vous le comprenez en tant que technicien. Mais comment vous expliquez cette baisse de régime? Notre équipe nationale a été méconnaissable et elle a été outrageusement dominée par une équipe très moyenne, une équipe du Malawi, qui n'a pas réussi d'ailleurs à confirmer ce bon résultat obtenu contre l'Algérie.
D'abord, il y a l'aspect psychologique. Peut-être que les joueurs algériens ont pris de haut cette équipe. Et puis, à travers les journaux, il fallait pas se fier peut-être à travers les déclarations dans la presse. L'Algérie, c'est le favori. L'Algérie, ça a peut-être joué un peu un mauvais tour dans l'esprit des joueurs. Et puis, quand on a affaire à plus petit, soi-disant le Mali est plus petit, il n'y a plus de petites équipes maintenant en Afrique. Je crois qu'ils ont fait un match référence pour eux, comme l'Algérie va faire de même peut-être contre la Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que la Côte d'Ivoire est meilleure et qu'ils vont nous bouffer, mais peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil des Algériens et sur un match tout est possible.
Justement, en parlant de Côte d'Ivoire, on va oublier ce premier tour puisque l'essentiel a été fait. Rabah Saadane a réussi son objectif, quoique lui n'avait pas d'objectif d'après ce qu'il disait. Il disait que cette participation à cette Coupe d'Afrique vient à un très mauvais moment, il aurait aimé l'éviter, etc. etc. Il faut dire qu'il a été un peu négatif par rapport à cette compétition, mais maintenant que ça lui a réussi, entre guillemets, puisque nous sommes en quart de finale, comment vous voyez ce quart de finale contre une équipe comme la Côte d'Ivoire?
C'est un match qui va être indécis, hein, parce qu'on joue quand même contre une équipe, une très grosse équipe, une équipe qui joue très très bien au football. Je pense que c'est la meilleure équipe actuellement d'Afrique. Mais aussi, je pense qu'une meilleure équipe, c'est pas l'association des meilleurs joueurs. Il y a aussi des ingrédients comme la communication, la volonté, l'abnégation qui entrent en jeu. Donc c'est un ensemble de choses où l'entraîneur a ses responsabilités. Il y a une réflexion sur les éléments individuels qui forment ce collectif, et je pense à l'équipe algérienne, à ce collectif, ils ont une certaine volonté qu'on a pu mesurer lors des deux matchs contre, les trois matchs contre, plutôt les deux matchs contre l'Égypte, où l'Algérie a fourni quand même une prestation de premier ordre.
Ouais.
Et demain contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont faire un match assez satisfaisant, assez convaincant pour remporter la victoire. Mais je suis d'un optimisme, je suis pas d'un optimisme démesuré, parce que je sais ce qu'il y a en face. La Côte d'Ivoire, c'est une grosse machine, ils ont des éléments de valeur mondiale, hein. Je ne veux pas citer les noms, Drogba, Gervinho, Kalou. Donc, et puis c'est une équipe qui a fait un parcours exceptionnel pendant les qualifications jumelées, hein, cette victoire à nul, meilleure attaque, meilleure défense, je crois qu'il faut le faire. Ouais. Mais je pense que c'est un match où, pour nous, hein, en ce qui concerne l'Algérie, il ne faut pas encaisser d'entrée le but. C'est très très important. Plus le match avance, plus on avance dans le match, et plus on a des chances de remporter le match, de gagner.
Est-ce que dans ce sens-là, on peut dire que...
Si on encaisse, ça va être très très difficile.
Mais est-ce qu'on peut dire que dans ce sens-là, peut-être que Saddam est le bon technicien pour ce match, puisqu'il a eu tendance à plus favoriser la défense?
Ça ne veut pas dire lorsqu'on joue derrière, ça dépend de l'animation qu'il veut donner à son équipe. Hein. Il peut être en 4-5-1 et quand on a le ballon, on se propulse en attaque et on joue avec trois attaquants. Et on peut être en 4-3-3 et défensif. Donc ça dépend de l'animation qu'il va faire, mais je pense que ça serait une erreur de rester derrière.
Mais est-ce que ça veut dire que ça a été une erreur d'être resté derrière aussi pendant les trois premiers matchs?
Le premier match, j'ai vu quelques séquences. Hein. Je ne peux pas me prononcer sur le match, mais disons que le score a été lourd. Donc, Et puis les conditions, d'après Sadel, les conditions n'étaient pas bonnes pour nos joueurs qui étaient asphyxiés par la température.
La température et le taux d'humidité très élevé aussi.
Okay. Moi, je pense que le premier match du Malawi, hein, 3-0, moi je pense qu'il y a l'aspect psychologique qui a joué beaucoup dans la tête des joueurs.
Ouais. Mais, Monsieur Hamid Boudjelloun, je n'aimerais pas donner l'impression de faire le procès de Monsieur Saddam, un technicien connu et reconnu qui a déjà fait ses preuves, mais c'est la tactique qu'il a mis en place depuis quelques matchs, depuis pratiquement toutes les éliminatoires, le premier tour de cette Coupe d'Afrique, etc. Une tactique qui lui est très chère. D'ailleurs, il l'a confirmé il y a deux ou trois jours sur le journal Le Buteur, où il avait dit que qu'il allait garder cette tactique et qu'il ne la changerait pas pour tout l'or du monde. Il a dit, moi ça ne me dérange pas que ce soit des défenseurs qui marquent et que mes attaquants défendent. Donc ça nous donne un peu une idée sur la façon de penser de Rabah Saadane. La 3-5-2, qui est une tactique obsolète, elle n'est pratiquée pratiquement nulle part ailleurs à travers le monde. D'abord, physiquement, et on l'a vu contre le Malawi justement, où nos joueurs étaient dépassés par les événements. Est-ce que vous pensez que demain, Rabah Saadane va commettre l'erreur d'appliquer encore cette tactique ultra défensive?
Je ne sais pas avec comment il va jouer, mais je pense, vu l'importance du match et la valeur de l'équipe adverse, je pense qu'il va fermer les espaces. Donc il va jouer, il va peut-être mettre 3 dans l'axe et deux milieux de terrain qui vont revenir. Donc ils vont fermer pratiquement les couloirs et être à 5 derrière, et puis 4 au milieu et un attaquant.
Ça veut dire qu'il va jouer, il va opter pratiquement pour la même chose, pour une tactique de prudence.
Je suis certain qu'il va jouer à la prudence. Ça m'étonnerait qu'on va aller chercher très haut. Ça m'étonnerait beaucoup, connaissant Saadane. Donc, je ne pense pas qu'il va se découvrir.
Vous, à votre place, est-ce que vous ferez à sa place, est-ce que vous ferez la même chose?
Moi, vu les attaquants qu'on a actuellement, on ne marque pas beaucoup de buts. D'abord parce que peut-être qu'on n'a pas des attaquants de valeur comme Drogba, ou comme des attaquants qui sont percutants, qui vont au but, qui provoquent, qui sont puissants. Donc on a un attaquant qui est bien dans le jeu sans balance, et le Revel, il fait un travail considérable. Il fait des courses, il fait un joueur de largeur, de profondeur, et puis il empêche la relance par son pressing. Mais sur le plan de la percussion, on n'a pas un joueur qui percute.
Monsieur Hamid Boujnoun, si vous avez vu justement les deux derniers matchs de l'équipe nationale contre le Mali et contre l'Angola, Rabah Saadan a pris son courage à deux mains pour mettre dans le bain un arrière latéral à droite. Il a mis Laifawi, qui n'est pas un arrière latéral de métier, au lieu de mettre Rahou. Apparemment, Rahou ne serait pas dans sa meilleure forme. Nous avons remarqué un léger mieux. L'équipe nationale a beaucoup mieux joué contre le Mali et contre l'Angola en première mi-temps, parce qu'il y avait un latéral. Il n'y avait pas cette tactique de 3-5-2 avec trois arrières centraux.
Il a opté peut-être pour Laifawi, qui est beaucoup plus défensif, qui est un joueur qui est beaucoup plus bon sur le plan du marquage, sur le plan défensif tout court, par rapport à un Rahou qui est beaucoup plus porté sur l'attaque.
Ouais.
Donc voilà, il y a aussi l'aspect physique, hein, c'est un athlète par rapport à sur le plan physique, ça compte beaucoup, hein, des moments où il faut choisir quand même des gabarits pour les joueurs aériens, pour barrer le passage à des joueurs puissants. Donc il a opté pour l'IFAOI. Bon, l'IFAOI, il est bon. Moi, j'ai trouvé bon sur le plan défensif.
Non, il a été excellent.
Dans le football moderne, il faut se propulser tout de suite en attaque quand on a le ballon. Donc il faut jouer sur les couloirs, monter, apporter, soutenir les attaquants, faire descendre. Chose que l'IFAOI n'a pas fait par rapport à un Rahou qui joue comme ça dans son équipe assétif.
Hamid Boujnoun, on sent tout de suite que vous avez été un attaquant plutôt qu'un défenseur. Je n'avais pas terminé mon émission, ma question que vous avez, que vous vous êtes lancé pour me répondre sur la titularisation de Laifawi à droite. Ma question était la suivante. Ne serait-il pas mieux pour Saadan et pour notre équipe nationale, tout en gardant Laifawi, de mettre un arrière-gauche de métier et libérer un peu Belhadj?
Ouais, le mettre dans le couloir. C'est-à-dire que tu veux monter par Hadj d'un cran, jouer au milieu pour permettre à ce joueur de monter, d'apporter un peu de soutien en position offensive et mettre quelqu'un à gauche à sa place.
Exact.
Ça, c'est le choix de l'entraîneur, hein. Donc il joue en fonction de l'équipe adverse aussi, hein. Donc oui, c'est vrai, moi je suis d'accord parce que Belhadj, c'est un joueur qui a un tempérament offensif, il prend des risques, il est bon dans son couloir, il a un pied gauche extraordinaire, donc il voit bien le jeu, mais moi je le trouve moins saignant sur le plan défensif.
Excellent, monsieur Boujnoun. Une prédiction pour demain. Vous voyez comment ce match?
Ah, moi je t'ai dit au départ, c'est un match très 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 indécis. Moi je pense que la chance de l'Algérie, c'est de ne pas encaisser d'entrée. C'est-à-dire, plus on tient, plus il faut essayer de créer le doute dans l'esprit des Ivoiriens en jouant en attaque quand il faut jouer en attaque, fermer les espaces dans les intervalles entre les lignes, et puis il faut toujours cadrer le porteur du ballon.
Donc
il faut être très agressif dans les courses, dans le marquage.
Donc si,
je pense qu'on a des joueurs, à un moment donné, il y a une occasion qui se présente, on peut faire la différence, parce que c'est un match qui va jouer sur un détail. Et l'essentiel est dans ce détail. Un ballon qu'on croit perdu, un ballon qui frappe le poteau et qui revient, une erreur de marquage, donc voilà.
Donc si jamais Saadan opte pour l'une de ses tactiques préférées, ultra défensive, prudente, etc. Vous voyez l'Algérie se qualifier au pénalty, par exemple, après prolongation?
Ah ben, si on arrive aux prolongations, tout est possible. Hein. Donc, moi, mais je crois pas qu'on. Moi, personnellement, je ne vois pas un match aller en prolongation. Je crois que ça va se décider pendant les 90 minutes.
C'est bien.
Parce que, de part et d'autre, surtout vu la composante de la Côte d'Ivoire, ça m'étonnerait qu'ils ne vont pas se créer des occasions. Je croise les doigts là, en espérant qu'ils ne marqueront pas. Mais tout est possible, hein, avec les joueurs qu'ils ont. J'espère qu'on va être à la hauteur et que Sadan va trouver la meilleure formule pour les contrer.
Excellent. Juste avant de finir, Monsieur Boudjounoun, un joueur, un attaquant justement, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'absence de but, etc., et d'absence d'attaquants percutants, etc. Un joueur comme Ziyaya, vous ne le voyez pas?
Ziyaya, moi, je n'ai pas, c'est-à-dire, je n'ai pas d'aperçu sur lui. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs à cette fin, ouais. Mais je sais que c'est un garçon qui est très très efficace dans les 16 mètres. Ouais. C'est un garçon qui marque beaucoup de buts. Il est grand, il est rapide, il joue bien de la tête. Moi, je pense qu'il
faut lui donner sa chance.
Peut-être, mais il aurait fallu le faire jouer contre les matchs précédents. Là. Il ne faut pas attendre le tournant du tournoi pour lui donner sa chance.
Merci beaucoup, Monsieur Boudjounoun.
Je vous en prie.
Merci, au revoir. Alors, voilà, nous sommes un peu en retard. Nous avons oublié de passer la publicité. C'est parti avec Rano. Enfin, quand je dis c'est parti, ça veut dire dans quelques secondes.
J'aimerais vous dire un mot. Ça vaut la peine d'être vu. Quoi ça? Meuble élégance. Oui, ça vaut la peine d'être vu. On y trouve du beau dans un endroit spacieux et tout à fait agréable. Jetez donc un œil à meubleélégance.com ou rendez-vous au 91 75 boulevard Langelier à Saint-Léonard. Meuble élégance, ça vaut la peine d'être vu.
Le carrefour du taxi.ca, votre portail en matière de services à l'industrie du taxi, désire être avec vous tout au long de l'année 2010. Chez FinTaxi, l'emphase est mise sur vous. Nous savons que derrière chaque volant, il y a des gens. Pour 2010, le carrefour du taxi.ca et toute l'équipe de FinTaxi vous souhaitent
une bonne année!
Alors, après la chronique de Issa et de Lamine, voici la chronique de Wahid. C'est parti.
Merci. Bonsoir. Rebonsoir à Issa. L'équipe nationale de football d'Algérie, El Khadra, a donné des sueurs froides à ses millions de supporters à travers le monde. Et pour cause, elle n'a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qu'après un suspense entretenu par des résultats mitigés et fort déplaisant, surtout lors de la rencontre Malawi-Algérie, où les Fennecs ont reçu une raclée qui marquera les esprits pour longtemps. Et oui, l'équipe cendrillon de ce tournoi africain, le Malawi, a déstabilisé durement un adversaire qui croyait la partie gagnée d'avance. C'était en porte-à-faux avec le dicton qui déconseille de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le match suivant contre le Mali fut pris très au sérieux.
La peau du bœuf.
On y a mis les bouchées doubles. En sonna le tocsin, on annonçait la fin de la réaction. Le seul but marqué par Hellish réhabilita l'équipe des Verts dans la course aux qualifications. Il faudrait reconnaître néanmoins que les Maliens se sont courageusement défendus. Ce fut un match de haute voltige. La rencontre avec le pays organisateur, l'Angola, s'annonça risquée. Les Fennecs n'avaient pas droit à l'erreur ni à l'amateurisme. Les individualités se devraient d'être prohibées pour céder grandement la place au jeu collectif où la cohésion et la complémentarité étaient de mise. Le nul concédé face aux Angolais, coriace adversaire, qualifiait l'Algérie pour les quarts de finale, mais ce résultat augure une rencontre au sommet entre deux équipes choisies par les bookmakers pour être finalistes, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Un fin admirateur des Verts et connaisseur du football africain habitant à Montréal a estimé que la qualification de l'Algérie s'est faite à l'italienne. Il y a eu une gestion match par match. Avec le Malawi, m'a-t-il dit, on a reçu une gifle car on n'avait pas la tête sur les épaules. On a bien joué avec contre le Mali. La rencontre contre l'Angola fut moyenne. J'appréhende le face-à-face Algérie-Côte d'Ivoire. Ce sera joli à voir. L'Algérie gagnera avec les équipes aguerries car c'est une sélection de grandes occasions. La rencontre de demain entre les éléphants et les Fennecs sera sûrement un vrai régal, tant pour son niveau de jeu que pour son enjeu. Espérons que les disciples de l'entraîneur Saadane sauront relever le défi ivoirien et enchanter les milliers d'adeptes d'El Khadra qui demain nous fassent monter au paradis où nous dit-on le vert, la couleur verte El Khadra, et la couleur phare.
Bravo Alik, Wahid.
Choukou,
alors,
choukou.
Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Lamine, tout à l'heure, moi et toi, on n'était pas sûr que...
Ouais, sur la question de la Zambie.
La Zambie avait...
Il y avait une nuance, en fait.
Quoi. Oui, la Zambie, c'est vrai que c'est son premier quart de finale.
Exactement, c'est ça.
C'est vrai. Mais la Zambie a déjà été finaliste à deux reprises, en 1974 et en 74. Et
ils ont même gagné l'équipe algérienne de 82 pour la troisième position, parce qu'ils étaient troisième.
Oui, ça, c'était
en 82.
En Libye,
en 82.
Pour le match de classement, pour la troisième place.
Sauf que je pense depuis 2000 ou 2002, je me rappelle pas très bien, la Coupe d'Afrique est devenue avec un quart de finale. Avant, il y avait deux groupes. Oui, le premier et le deuxième jouaient la demi-finale. Oui, donc, oui. C'est leur premier quart de finale. Mais il faut mentionner, par contre, la Zambie qui a perdu une grande équipe suite à un crash d'avion. L'avion presque, l'équipe était morte à 80%. Ce qui fait que le niveau de la Zambie depuis 94 a chuté. Il commence à reprendre à construire une équipe.
Exactement.
Le monde va être سعدان دوما يا دي جون يا جانا مي ما دير قال لي انا ما نروحش نشوف الماتش باسكو نخاف يحبس قلبي قال لي انا ما نشوفوش
وي يا دي جون
من بعد ديكالي
يا دي جون كي سون كوم سا كي نسيبورت با
عندهم الحق وي بيان سور صاحبي نسقسيك عيسى يعني دوما راك سوبوزيمون راك سعدان شكل ليكيب كومبوزيون سون ليكيب اللي تحب تخيرها غدوه
D'abord, je n'aimerais pas être à la place
Saadane. Ça, supposément.
Oui. Non, j'allais. Toi aussi, oui. Tu es en train de faire comme Hamid Boujnoun. Tu es offensif.
Ah. Ouais, ça, il a défensif.
Voilà, défensif. Je suis un adepte des tactiques de Rabah Saadane. Je n'aimerais pas être à sa place parce que Rabah Saadane a demain un grand problème entre les mains. Il a plusieurs joueurs blessés. Il y a Saifi, il y a Megni, il y a Antar Yahya. Il y a Bezaz qui a déjà quitté l'équipe nationale et il a Chaouchi aussi qui apparemment serait blessé. Bon, aux dernières nouvelles d'après le journal Le Buteur, Rabah Saadane aurait dit que Chaouchi serait devant les buts demain. Donc pour toutes ces raisons, je n'aimerais pas être à sa place. Mais sinon, comme je le disais tout à l'heure à Hamid Boujnoun, et sur le vu de tous les événements de ces derniers temps, tous les matchs, il faut dire que notre équipe nationale n'a inscrit que deux buts en cinq matchs officiels. Le premier par Antar Yahya contre l'Égypte à Omdurman. On avait perdu 2-0 au Caire. Ensuite, on avait gagné par un but à zéro, donc c'était Antar Yahya qui avait marqué le but. Le 18 novembre dernier, il y a donc deux mois et quelques jours. Et puis le deuxième but a été encore marqué par un défenseur, Hellish, contre le Mali. Sur cette base, moi, si j'étais à la place de Saadane, je changerais de tactique.
Pourquoi ?
Toujours une tactique où la prudence serait de mise, avec un arrière droit et un arrière gauche de métier. La charnière centrale, c'est clair, c'est Bougra et Hellish. Et donner un peu plus de liberté à un joueur comme Belhadj, qui lui est très offensif. D'ailleurs, lui, il adore jouer devant. Et c'est pour cette raison qu'il a d'énormes problèmes, Belhadj, dans toutes les équipes par où il est passé. Et il faut rappeler que Lyon, le sextuple champion de France, l'avait recruté en même temps que l'arrière-gauche de l'équipe italienne, dont le nom ne me revient pas, c'est pas important. C'est lui qui est arrière-gauche à Lyon. Et Belhadj s'était retrouvé remplaçant après quelques matchs. Pourquoi ? Parce qu'il ne tenait pas sa place, ni sur place. Il était tout le temps devant.
Électron libre.
C'est un véritable électron libre. C'est ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il veut jouer. Et c'est comme ça qu'il a réussi ses meilleurs matchs. C'est pas en tant que défenseur, mais en tant qu'attaquant. En attaquant, en dribblant, en centrant, en faisant des centres extraordinaires. D'ailleurs, les centres de Belhadj sont très très reconnus maintenant. C'est ce qui fait même sa force. Donc, libérer un peu plus Belhadj dans le couloir gauche pour défendre et attaquer quand nous sommes en possession du ballon. Et puis à droite, libérer Matmour aussi en faisant jouer un arrière droit de métier. Bon, il a réussi avec l'Aïfaoui, il faut continuer. Libérer un peu plus Ziani, parce que faire jouer des attaquants ou des milieux terrain offensifs avec des consignes ultra défensives, ça ne joue pas en faveur de l'équipe nationale. Donc libérer au moins quelques joueurs comme Ziani, comme Belhadj, comme Matmour des tâches défensives.
Mais par contre, Issa, tu ne penses pas que cette stratégie ultra défensive ou elle donne des résultats contre des équipes qui jouent bien, c'est que je m'explique. C'est sûr que jouer avec ça contre le Malawi, ça n'a pas de sens parce que normalement, tu t'imposes, tu vas aller marquer des buts.
Oui. Bon, mais on oublie le match contre le Malawi.
Non, mais même jouer contre l'Angola, qui, moi, j'insiste à dire que c'est pas une grande équipe, là, l'Angola, comparé à Côte d'Ivoire.
Exactement.
Donc, jouer avec ça, avec l'Angola, je poserai des questions. Mais par contre, ça s'est avéré très efficace avec l'Égypte, avec la Zambie aussi, qui est aussi une bonne équipe. Donc, peut-être que demain, ce serait en faveur de l'équipe nationale d'avoir une stratégie qui va étouffer le milieu de terrain parce qu'il y a 5 joueurs, c'est vraiment très très dense, comme avec 4 défenseurs en plus. Ouais. En fait, quand tu vois entre notre zone et la zone du milieu de terrain, c'est 9 joueurs qui vont.
Il y aura beaucoup d'encombrements.
Absolument. Peut-être que avec la Côte d'Ivoire et comme l'a dit le grand spécialiste donc
Hamid
Boujnoun, peut-être on va jouer sur la chance que Razel pourra avoir sur une occasion,
c'est
une
ça,
erreur. Profiter d'une occasion.
Mais c'est ce que fait Sadam justement, jusqu'à présent, c'est ce qu'il fait. Mais moi, en tant que supporter, moi je suis pas.
Tu veux voir des buts, toi.
Moi, je veux voir des buts. Je veux voir l'équipe attaquer. Nous avons les moyens de faire de très belles actions.
Il faut attaquer, il faut se défendre. Mais il y a un attaquant, j'ai un joueur de Côte d'Ivoire. Il a fait une déclaration récemment. Bon, bref, on va passer outre. Drogba. Comment faire pour essayer de le neutraliser, Aïssa?
Il n'y a rien à faire contre Drogba.
Ouais, je ne sais pas, moi.
Être attentif à tout instant. Et puis, lui, et c'est sûr que Sadam va mettre quelqu'un sur lui.
Oui.
Ce sera Bougra ou Halish. Deux joueurs qui sont grands de taille, qui le dépassent même, peut-être, je crois. Donc,
Il est fort.
C'est un joueur très puissant. Il est très technicien. Il est rapide. Ouais. Il tire bien. Il a toutes les qualités d'un avant-centre.
Il faut faire attention. Hein. C'est une équipe où, quand on voit la liste des joueurs, c'est FC Barcelone, des équipes, les grandes équipes allemandes, françaises, tout ce que tu veux. Mais, Anaïssa, je pense que j'ai moins d'inquiétude au niveau de la défense. Ce qui m'inquiète, et là, je te rejoins avec une stratégie très défensive, parce qu'on a quand même des joueurs, quand tu prends Bougra ou Lahlich, c'est des joueurs qui sont capables d'être concentrés à 80 minutes, il n'y a pas de problème. Parce que le problème avec un grand joueur comme les joueurs de Côte d'Ivoire, c'est l'instant où tu as une déconcentration de 30 secondes, c'est fini là. De 10 secondes, c'est fini. Le joueur, tu fais une petite erreur, une déconcentration. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on va subir beaucoup. Et quand tu vas commencer à subir...
Subir, ça fait souffrir.
Ça fait souffrir, exactement.
Les supporters algériens ont énormément souffert.
On l'a vécu à Khartoum, mais il faut mentionner.
Non,
on
oublie d'abord. Au Caire d'abord.
Exactement, Khartoum, c'était
en menée.
Exactement. Mais on a souffert, là.
On a souffert.
Il y avait des bus qui rentraient, là. Chaouchi était là, les défenseurs.
Nous avons subi tout le match.
Donc le risque de recevoir des buts est très présent. Et je pense, à mon avis, que la Côte d'Ivoire...
Et ça tape sur les nerfs d'un supporter. Le supporter d'une équipe nationale qui est là pour voir son équipe gagner et la voir souffrir comme ça, c'est-à-dire subir le match pendant pratiquement 90 minutes, c'est intenable. D'où est-ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Quelqu'un te disait que moi, je ne pourrais pas regarder le match.
Ça va augmenter le nombre de diabétiques. Bon,
exactement. Diabète, les crises, etc.
Il y a des incidences sur toute la société.
Si vous permettez.
À cause de 5, 4, 1... C'est quoi ces 4, 5?
3-5-2.
3-5-2,
4-5.
Non, mais demain, il va jouer avec 4-5-1.
Non, demain, on ne sait pas comment.
Ah, il a confirmé.
Ah oui?
Ah oui,
ok, on va marquer une pause. On va marquer une pause musicale et puis au retour, on va voir comment risque de jouer sa
deuxième demain. Mettant, il a marqué 9-1.
Allez, c'est parti. Alors lui, il s'appelle Tak Farinas et il nous interprétait une chanson magnifique, mais le titre je ne l'ai pas malheureusement. Alors nous allons reparler à Hamid Boujnoun. Hamid Boujnoun, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, Monsieur Boujnoun.
Ah, je voulais intervenir, je vous ai écouté parler tout à l'heure, vous parlez de tactique, qu'on n'attaque pas, il faut défendre, etc., etc. Mais je pense que pour attaquer, il faut avoir de bons attaquants. Des attaquants disponibles. Est-ce que l'Algérie peut se payer ce moyen? Est-ce qu'on a des joueurs qui peuvent attaquer?
Ça, c'est déjà un problème.
Connaissant la philosophie et le credo de Saden, je pense qu'il défend pour mieux attaquer. Donc, il veut donner une certaine confiance à l'équipe à travers la récupération et puis jouer le contre-attaquant. Mais... parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on avance dans les matchs et plus on prend de la confiance.
Monsieur Boujnoun,
voilà, c'est pour ça qu'il veut inspirer l'équipe adverse, laisser le jeu à l'équipe adverse pour mieux les contrer.
Il y a deux éléments à ce niveau-là.
Il faut jouer avec intelligence, ne pas se jeter coréen devant, ne pas se laisser inspirer par les Ivoiriens. Ça dépend comment ils vont jouer parce qu'ils sont très forts derrière. Ils ont l'entraîneur qui a beaucoup de métiers. Il leur a donné une très grande rigueur défensive. Je les ai vus contre le Ghana, ils fermaient tout de suite le jeu. Dès qu'ils perdent le ballon, ils fermaient tout de suite le jeu. Et puis quand ils ont le ballon, ils savent
se déployer.
Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance à l'entraîneur et puis la parole revient au joueur. Hein, l'entraîneur, c'est pas lui qui joue. Hein.
Mais monsieur Bleu, par rapport au fait qu'en jouant en défense, et je pense que tout le monde serait d'accord à dire que quand on joue contre une équipe comme Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, fermer le jeu, ce serait l'idéal et essayer de saisir une occasion pour marquer un but. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la pression qui va être, ce qu'on va subir avec le temps, je parle des joueurs aussi, qu'on augmente les risques d'une déconcentration de quelques secondes d'un de nos défenseurs et c'est fini là. Si le but
ça peut jouer, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait jouer sur un détail, donc c'est pas évident de rester 90 minutes derrière. Je pense pas qu'il y a des équipes qui peuvent rester 90 minutes et encaisser les coups de boutoir de grands attaquants comme Diabvino, comme Drogba et j'en passe. Donc à un moment donné, parce que dans un match, il y a toujours des occasions qui vont se présenter, hein, des opportunités qu'il faut saisir au bon moment. Mais il faut jouer avec intelligence. On ne va pas se jeter dans l'angle du loup. Il faut jouer tactiquement, il faut réfléchir sur un terrain, il faut que les joueurs sachent qui fait quoi. Donc gérer bien les espaces, aller au marquage, être agressif surtout, parce que j'ai vu quand les joueurs ivoiriens, ils sont un peu chatouillés, ils reviennent en arrière. Hein, donc c'est à nous de nous imposer par notre jeu. Et Saden, s'il joue la prudence, je suis entièrement d'accord avec lui, parce que s'il ouvre le jeu contre une équipe comme la Côte d'Ivoire, on va prendre 4.
De toutes les façons, on n'a pas le choix que de lui faire confiance.
Ah, il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à l'équipe, à Saden. Et puis, ma foi, si on fait un bon match et on perd, c'est pas dramatique.
C'est pas dramatique. Eh bien, merci beaucoup, M. Boujnoun.
Je t'en prie, Aïssa.
Merci beaucoup, Yatek Saha. Donc, voilà, il faut faire confiance à cette équipe. D'ailleurs, Rabah Saden, c'est ce qu'il n'arrête pas de dire. Faisant confiance à cette équipe. Donc, il a entièrement raison de dire il faut faire confiance à cette équipe. Lamine, laisse-moi finir. Oh, Lamine, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible.
Parce qu'on joue la défense, Aïssa. Il faut pas faire d'erreur, Aïssa.
Je suis en train de faire de la fièvre, pas par rapport au match de demain.
À l'émission.
Non, par rapport au temps qu'il fait à l'extérieur. C'est vrai qu'il fait froid,
mais comme
peut-être pas très, mais il fait froid.
Il n'y a plus de neige.
Mais il y a une bonne nouvelle. Ouais. Bon, d'abord, il n'y a pas de neige.
Il va pleuvoir.
Et ensuite, non, l'autre bonne nouvelle, c'est que la prochaine tempête n'est prévue que pour le mois de mars, vers le 23-24. C'est-à-dire que d'ici là, il y aura plus de neige. Ouais, ouais. Oui, ça, c'est ma météo à moi. Ouais. Et puis, lundi.
Il va pleuvoir.
Il va faire autour de. Entre 7 et 10 degrés. Ouais. Ça.
Donc on peut aller nager. Hein.
Non, 7 et 10 degrés, c'est en cas de défaite de l'Algérie. Mais si l'Algérie gagne demain, il fera entre 12 et 15 degrés. En attendant tout ça, nous allons marquer une pause publicitaire et on vous retrouve tout de suite après.
J'aimerais vous dire un mot, ça vaut la peine d'être vu. Quoi ça?
Meubles élégance. Oui, ça vaut la peine d'être vu. On y trouve du beau dans un endroit spacieux et tout à fait agréable. Jetez donc un œil à meubleselegance.com ou rendez-vous au 91 75 boulevard Langelier à Saint-Léonard. Meubles élégance, ça vaut la peine d'être vu. J'aimerais vous dire un mot. Ça vaut la peine d'être vu. Quoi ça? Meubles élégance. Oui, ça vaut la peine d'être vu. On y trouve du beau dans un endroit spacieux et tout à fait agréable. Jetez donc un œil à meubleselegance.com ou rendez-vous au 91 75 boulevard Langelier à Saint-Léonard. Meubles élégance, ça vaut la peine d'être vu.
Alors, depuis tout à l'heure, nous n'avons pas cessé de parler, d'essayer de décortiquer le jeu de cette équipe nationale et d'analyser.
Bah oui, mais même avec toi.
Mais quand on parle de football, de n'importe quel domaine, quand des êtres humains, pas des Algériens, des êtres humains se rencontrent pour parler d'un sujet donné. Non, ils se mettent tous dans la peau de.
Non, mais ça, c'est le problème aussi des journalistes.
Des spécialistes.
Non, des journalistes. Parce que tu sais qu'au Québec, tous les autres professionnels, ils vont avoir un diplôme pour adhérer à l'ordre.
À l'ordre,
des
oui.
exigences. Ouais. Sauf les journalistes. Il faut commencer à animer, tu rentres dans l'ordre.
Dans le désordre.
Non, mais c'est vrai, hein. C'est incroyable.
C'est vrai, c'est vrai.
On devient spécialiste de tout.
De tout. Il y a plein de spécialistes. Alors pourquoi pas nous?
Exactement.
Pourquoi pas nous?
Sinon, ce serait quelque chose de discriminatoire.
Exactement. D'ailleurs, oui, Wahed. Wahed, tout à l'heure, il a fait une chronique superbe sur l'équipe. Très positive. Non, c'est vrai. Au lieu de critiquer, de parler de tactique, bonne, mauvaise, défensive, ultra-défensive.
C'est le khadra.
Le khadra.
Le khadra fait le paradis.
Le khadra fait le paradis. Le credo de Wahid. Eh bien, c'est ça. C'était très bien. Maintenant, il va falloir qu'on arrête de tchatcher et qu'on passe à autre chose. Qu'on donne la parole
aux concernés.
on va donner la parole aux concernés maintenant. Alors, ce ne sera ni Wahid, ni Lamin, ni moi. Ce sera les concernés. On les écoute et on vous retrouve tout de suite après. C'est parti.
احنا نلعبوا بدون ضغط بدون خوف احنا تايخين في نفسنا ونعطيوا اللي علينا في المباراه وان شاء الله خير
est très concentré que ce soit à l'entraînement ou même en dehors des entraînements on pense beaucoup au match et on va tout faire pour bien aborder le match dès le début.
عن طريق يحيى يعني من ناحية الصحية الحمد لله يعني تعالج نقوله 100% ذرك مشكلته لأنه توقف كثير من 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 من, من المباراة 18 يلعبنا في خرطوم ما لعب أي مباراة رسمية يعني مع فريقه ولا معنا لهذا حتى وقف حتى التحضير تاعه لهذا ضيع كثير ذرك مسألة وقت حاليا راه في تحسن ولكن مازال بعيد كما نقولوا احنا على 90 دقيقة ولا 120 دقيقة
صحيا بالتعافى منها ان شاء الله نكون في الموعد ان شاء الله يا رب غدا ان شاء الله نكون ان شاء الله مليح ان شاء الله قد ما فرصتي ان شاء الله من اجل الشعب الجزائري من اجل الاعلام الجزائري ان شاء الله
شوشي نتمنى لانه عنده اليوم اختبار في التمرين الاخير باش نعرفوا لا يقدر يشارك ولا ما يشاركش لانه محتاجين لاعبين يلعبوا 100%
هو عنده اصابه خفيفه ان شاء الله ان شاء الله يكون غدوه ان شاء الله جيسبير نتمناو يكون
Alors voilà, ça c'était
Saadan, Magni aussi qui
disait qu'il était que l'équipe était très concentrée, que l'équipe n'avait peur de personne, qu'il n'avait pas peur ni lui ni ses joueurs et qu'ils étaient prêts à affronter cette équipe ivoirienne. Et puis Magni qui disait à peu près la même chose,
qui était surtout disposé physiquement à jouer.
Il se disait prêt à jouer après sa blessure. Et puis Saadan qui parlait de Hantar Yahya et qui disait qu'il n'avait pas joué. Que physiquement qu'il avait récupéré de sa blessure et qu'il était éventuellement prêt mais sans problème entre guillemets c'est que André Yahya n'a pas joué depuis le 18 novembre le match de Om Dorman et après c'était Chaouchi qui disait qu'il espérait tenir sa place demain malgré sa blessure ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite il faut espérer qu'il se refasse une santé et qu'il soit présent demain.
Mais Aïssa, en connaisseur surtout, bien sûr, du football algérien avec les équipes algériennes, les locaux, que penses-tu du gol du Mouloudia qui pourra éventuellement remplacer ? Est-ce qu'on est en catastrophe parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent ou est-ce qu'on a quand même un goal qui est assez...
Non, il faut dire que Zemmamouche est un excellent gardien d'abord. Les gens, ce qu'ils ont retenu, de Zemmamouche, c'était le match qu'il avait, le but qu'il avait encaissé contre, quand il était à l'USMA contre le Moulidia d'Alger, le but marqué par Koulibaly de 40 mètres à peu près. Les gens n'ont retenu que ça. Or, ce joueur, à cette époque-là, était un joueur saturé. Il faut dire que Zemmamouche avait disputé avec l'USM Alger et le championnat et la Coupe d'Algérie, la Coupe arabe, la Coupe d'Afrique. Il se déplaçait, il était international espoir, il jouait avec, il a participé aux Jeux méditerranéens d'Almeria en Espagne. L'entraîneur c'était Abdelhak Ben Chira, etc. À l'époque, Zemmamouche était saturé. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, puisqu'il a joué, il a disputé des matchs de Coupe d'Afrique et de Coupe arabe avec l'USM Alger. Il a été gardien international espoir. Il a qualifié l'Algérie aux Jeux méditerranéens et il a disputé 3 matchs pendant ces Jeux méditerranéens, etc. C'est d'ailleurs à cause de ça, quand Zemmamouche a signé en début de saison avec le Mouloudia d'Alger, Saadane s'est empressé de le convoquer dès qu'il voyait que Ousrir n'était pas au mieux de sa forme, il ne jouait pratiquement plus au niveau du Shabab de Belouizdad, il a préféré appeler Zemmamouche. Aujourd'hui, il faut espérer que cette équipe nationale qui a eu, qui a déjà connu ce problème de gardien de but avec la suspension de Gawawi, et on a vu les Égyptiens avaient commencé à jubiler. Oh, ils se disaient,
pour eux, c'est fini.
Ah oui, c'est fini, ils n'ont plus leur gardien titulaire, ils vont mettre le remplaçant, on va lui mettre
la page. Et même l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, il a aussi, je suis très heureux de la blessure de Chachi.
Oui, bien sûr.
Parce que qu'il ne voit pas ce qui est derrière.
Exactement, exactement. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans le cas où il faut espérer que Chachi soit présent, parce que Chachi est en train d'acquérir...
En plus, il est dedans.
Il est déjà dans l'ambiance, il a déjà joué 3 matchs, etc. Il faut espérer qu'il soit présent. Maintenant, s'il est pressé, moi, je suis convaincu que ça va être la même histoire. Les gens vont dire, mais c'est incroyable, leur gardien titulaire s'est blessé, ils nous mettent le remplaçant. Il est meilleur que le titulaire. Il faut espérer que Zemmamouche soit dans son jour. C'est un gardien très sérieux. C'est le meilleur gardien du championnat national. Le Mouloudia d'Alger est en tête du classement un peu grâce à lui.
Oui. Il a fait, je pense, 7 matchs sans encaisser un but.
7 matchs sans encaisser de but. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai pas peur. Autre information concernant ce quart de finale, qui se jouera demain à 14h30 heure algérienne, 20h30 heure angolaise. Donc, 14h30 heure montréalaise, ici. Pour voir ce match, il faut aller dans les cafés qui ont El Jazeera Sport. Sinon, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans un café, vous pouvez rester chez vous et le
Internet.
Voir via Internet. Il y a plein de sites qui passent, El Jazeera entre autres, qui passent ce match. Un truc intéressant aussi, le match sera arbitré par Eddy Maillé, le même arbitre qui avait arbitré l'Algérie contre Omdurman, contre l'Égypte.
Et je pense que c'est un très bon arbitre.
C'est un Seychellois.
C'était quand
il
même
est parmi...
un match très difficile.
Ah oui, oui.
À Khartoum, il a été vraiment à la hauteur.
Ah, il a tenu
il a pas eu beaucoup d'erreurs.
Il a dirigé d'une main de maître. Il n'a commis pratiquement aucune erreur. Il a été excellent. Il faut dire que c'est l'un des meilleurs arbitres africains et qui est sélectionné pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, de ce côté-là, il n'y a absolument rien à craindre. Nous allons marquer une autre pause, 23h39, une autre pause musicale, et on vous retrouve tout de suite après.
يا زاير تحيا ومعاكم توجو الفيدان اللي ماشي الوحار اشعل لنا الشمعة وطولي فيني في كل مكان وإحنا مسامحي يا خلاف وعقلي في مشار ما زال الرتور في الغاية الصحيبة شاما يسر ضغري كاري في ماشي الوحار اشعل لنا الشمعة وطولي فيني في كل مكان وإحنا مسامحي يا خلاف وعقلي في مشار
parlant de Zemmamouche tout à l'heure et en parlant des championnats d'Algérie, il y a eu hier et aujourd'hui une journée, la 19e journée du championnat national de football. Et cette journée a été favorable au Mouloudia d'Alger qui a disputé son match hier vendredi au stade du 5 juillet. Le Mouloudia a disposé du CAB Borj Bouharelej par 3-1. Aujourd'hui, à Oran, le Mouloudia d'Oran a battu le Mouloudia de Batna par 2-0. À Tlemcen, le Wydad de Tlemcen et l'USM Alger ont fait match nul 2-2. À Béjaïa, la JSM Béjaïa et le Chabab de Belouizdad, 1-1. À El Harraj, l'USM El Harraj à huis clos a battu la JS Kabylie par 2-1. À Ussendé, le net Ussendé s'est fait surprendre par l'ISO Schleff par 1-0. Au Khroub, l'ISO Khroub a battu l'USM Blida par 3-2. Et à Batna, le CAB de Batna a battu l'USM Annaba par 2-1. Au classement, en tête toujours le Mouloudia d'Alger avec 35 points et avec un match en moins contre l'entente de Sétif. En deuxième position, la JS Kabylie avec 31 points, ex aequo avec l'USM El Harraj. La quatrième position est partagée avec par le Wydad de Tlemcen, la JSM Béjaïa et l'USM Annaba. Les trois dernières positions sont occupées par l'USM Blida, le Nahd Ussendé et le Mouloudia de Batna. Le championnat national Lamine se joue pratiquement à huis clos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques mois, depuis pratiquement le début de la saison, et ensuite, je pense qu'il y a eu aussi cet engouement pour l'équipe nationale qui fait que le public algérien n'est plus intéressé par le championnat. Il faut dire qu'au niveau des stades algériens, il y a une certaine violence qui s'est installée. Il y a énormément de violence. Donc ça éloigne les vrais sportifs des stades. Les gens se disent, moi je ne vais pas au stade pour
je
voir un
match.
Je ne vais
pas à Kabenda.
Exactement. Et pour me faire agresser, pour me faire voler, etc. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour le football algérien.
Mais je pense que c'est aussi une conséquence de la situation du décalage qu'il y a entre le championnat national et l'équipe nationale.
Oui, justement.
Le
oui.
choix d'aller avec les professionnels, ce qui est en notre avantage au niveau de l'équipe nationale, ça crée un décalage. Et je peux dire que cette année, quand même, il y a eu beaucoup de matchs d'équipe nationale. C'est une année très remplie.
Ouais.
Je parle de 2009.
Ouais.
Et si les
2009 et 2010, ça va être la même chose.
Exactement. Donc les amoureux du football en Algérie voient l'équipe nationale, ils vont voir un match de championnat, ça ne correspond pas au même niveau, peut-être aussi, ça fait quand même un...
Ça aussi, ça
joue
ça,
sur le moral.
Ça,
moi,
influence.
J'ai essayé de voir quelques matchs de championnat durant la fin de l'année. Je te dis, c'est difficile de voir vraiment, il n'y a pas de positionnement. Les joueurs, c'est même d'un point de vue physique, la façon de courir les joueurs, il y a vraiment un décalage énorme entre le niveau de l'équipe nationale et le championnat. Et ça peut être une des raisons qui a fait que les gens ne sont plus là.
Ouais, et ça me rappelle une blague. J'étais dans un café en train de voir un match du championnat du Qatar. Il y avait Rafir Saifi qui jouait avec son équipe Al Khor, et ils ont montré les tribunes. Il y avait peut-être 20 personnes dans toutes les tribunes. Un superbe stade, de superbes tribunes.
Ça, c'est un autre phénomène au Qatar, c'est incroyable.
Mais archi vide, il n'y avait personne.
Non,
et puis, il y a quelqu'un qui était à côté de moi. Moi, j'ai dit, mais c'est incroyable, un si beau stade vide comme ça, pratiquement personne dans les tribunes. Il m'a dit, au Qatar, c'est très spécial. Ce sont le peu de spectateurs qui sont dans les tribunes. qui regardent le match, ce ne sont pas eux qui connaissent les joueurs. C'est les joueurs qui connaissent les supporters. Ils vont te dire, c'est Mohamed à gauche avec le pull rouge. Abdelbassat.
On a parlé beaucoup de Saadane, mais aussi c'est une occasion de parler du président de la fédération, l'Hadj, comme on l'appelle. Moi, personnellement, c'est pas une critique dans le sens négatif, mais dans le sens constructif. Je pense qu'il est trop présent avec l'équipe nationale. Un président de la fédération est censé construire l'avenir du football. Tu sais, il y a un responsable de l'équipe nationale au sein de son équipe et qui est là déjà. Bon, c'est important qu'il, bon, ce qu'il a fait en Égypte, c'était important parce qu'il y avait la pression. Il a son poids au niveau arabe, au niveau international. C'est important qu'il soit là. Mais être trop collé, même durant la préparation, je trouve que c'est une des raisons aussi que notre niveau, parce qu'il faut qu'on se concentre sur cette équipe nationale. Mais il y a toute une stratégie du football dans le pays. Il y a le championnat national, il y a les clubs, il y a les stratégies de développement, il y a les écoles, et son rôle, c'est à son bureau à Adel Ibrahim. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça.
Moi j'aime quand tu relèves ce genre de points et de problèmes. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je peux te dire que moi, je connais quelqu'un ici à Montréal qui est allé en Algérie pour un mois. Il devait rencontrer le président de la fédération. Il n'a pas pu le faire. Il ne l'a vu que quand il lui restait à peu près 3 jours. Il était tout le temps en déplacement avec l'équipe nationale. Il est en France, il est en Espagne, il est là.
Il était avec eux dans le camp de préparation.
Oui.
Parce que je peux comprendre qu'actuellement, il a des réunions puisqu'il est membre de la CAF et de la FIFA même. Mais là, aller avec eux à Toulon, je trouve qu'il faut s'occuper aussi du football en Algérie parce que la relève, c'est ceux qui jouent actuellement.
Lamine, ne penses-tu pas qu'il y a eu, des rumeurs au début donc de l'entraînement du stage de l'équipe nationale en France, oui, de préparation, qu'il y a eu des démêlés, des dissensions, les qu'on dira-t-on dans la presse. Donc peut-être que monsieur, c'est à mon humble avis, hein, que monsieur donc Raouraoua s'est déplacé là-bas pour essayer de...
Était là-bas, il avait quitté pour Alger.
Oui.
Il a été rappelé en extrême urgence pour venir justement calmer un peu, calmer les esprits. Bon, là-dessus, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Et ce qui n'avait pas plu à Rabah Saadane, qui avait accusé justement certains journalistes d'être des traîtres, de ne pas être des Algériens. Là, Saadane a commis une erreur. Ce n'est pas son rôle de faire ça. Il est entraîneur de l'équipe nationale. Les journalistes sont là pour faire leur travail. Lui aussi, il est là pour faire son travail. Il aurait dû éviter de parler de ça, sinon se taire carrément, parce que les journalistes ont rapporté plein d'histoires, et parmi elles, il paraît que Saadane a été obligé par certains joueurs, pros bien sûr, puisque les locaux se font tout petits, ils savent qu'ils le sont aux yeux de Saadane, donc ils ne font pas trop de problèmes, de grabuge. Certains joueurs pros ont refusé ou ont obligé Rabah Saadane à opter pour ce lieu de préparation en France. C'était pour qu'ils soient près de leur famille, pour pouvoir aller fêter les fêtes, passer les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, les joueurs ont pris leur sac, ils sont partis, alors que Saadane leur avait interdit de quitter le lieu de regroupement. Il leur avait dit, vous quittez le jeudi matin, le 31 décembre, au matin, pour aller vers vos familles. Ils sont partis tous le mercredi après-midi. Ils ont laissé Rabah Saadane et son staff et quelques joueurs locaux seuls. Quand quelques journalistes ont parlé de ça, Saadane n'a pas accepté, n'a pas supporté ça, d'où sa violente réaction contre la presse algérienne. D'ailleurs, il a même boycotté, il a fait des entraînements à Luanda, à huis clos, à cause de ça. Et tu as bien fait de relever ce point, Lamine. Moi, je dirais la même chose de M. Diar, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est collé au basque de cette équipe nationale depuis pratiquement le match du Caire. Depuis le match du Caire. Il est tout le temps avec eux, et ça aussi, moi, je n'aime pas ça. Moi, je vous dis, le côté récupération qui est fait, récupération politique d'un événement sportif, moi, je n'ai pas aimé ça. Et après avoir parlé de Raouraoua et de Diar, moi, je vais parler de Abdelaziz Bouteflika. Lui aussi, il a fait dans la récupération. D'ailleurs, il y a quelques jours, il paraît que le président de la République a demandé à son entourage d'aller visiter le zoo de Ben Laknoun. Il leur a dit, j'aimerais aller voir le gorille qui est là-bas. il est très âgé, il est là depuis l'ouverture du zoo, il voulait aller le voir. Donc ses services appellent le directeur du zoo, lui pose le problème, il leur dit ok, il n'y a pas de problème. Il réunit son staff pour leur dire que le président de la République allait être là le lendemain. Et l'un des responsables du zoo lui dit, mais monsieur le directeur, au directeur du zoo, lui dit, mais le gorille est mort il y a 3 mois. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Mais si, on vous l'a dit. Bon, il commence à...
Il
faut trouver une solution. Alors, le même responsable lui dit, nous avons gardé la peau et la tête. Alors, on va mettre quelqu'un, je sais pas, comme Mesoud, le gardien. On le met dedans, il va commencer à se frapper la poitrine comme ça. Pendant 5-10 minutes, le président va le voir, il va rentrer chez lui. Il dit, ça c'est une très bonne idée. Ils le font. Bouteflika arrive avec son staff, les ministres, etc. Il commence à regarder. Il leur dit, pourquoi il est maigre comme ça? Le directeur lui dit, oui, parce qu'il a vieilli, il a grandi, il mange pas beaucoup, etc. C'est pour ça qu'il est maigre comme ça. Il leur dit, bon, alors, vous le mettez dans la cage du lion, au moins que le lion profite, qu'il le mange, lui, au moins, il va retrouver la santé. Mais, monsieur le président, j'ai dit, vous le donnez, vous le mettez dans la cage du lion. Ils le sortent, ils le mettent dans la cage. Et monsieur se met à crier. Anna Mesoud, Anna Mesoud, Anna Mesoud! Et le lion vient, il lui saute dessus, il lui dit, matrache, matrache, Anna Rizrita al cousina. Alors, ça c'est une chanson de Hassiba Amrouche et Cheb Toufik. Elle est spécialement dédiée.
Elle est dédiée spécialement à un jeune homme, Mebarkia Moudathir, qui nous l'a demandé ce matin. Et c'est un fervent supporter de d'El Khadra.
Et moi j'ajouterai Arzqi Amsoud.
Du zoo de Ben Aknon.
Yeah.
Alors voilà, c'était Hassiba Amroche et Chab Toufir qui nous interprétaient Allez les Verts, Allez les Verts. Ben, merci d'avoir été avec nous. 23h56, c'est la fin de notre émission. Merci à Rano qui était à la technique. Merci à Wahid. Merci à Lamine. Un dernier mot, Wahid.
Drogba midir fi awal urdwa. Inch'Allah.
Inch'Allah.
Inch'Allah. Non, j'ai aimé d'ailleurs un documentaire sur Saden aujourd'hui. Il y avait quelqu'un, j'ai oublié qui, mais il avait dit que bon, il avait que, il y a peut-être des techniciens qui sont meilleurs que Saden, mais Saden a un baraka. Donc, Inch'Allah, tu as le baraka à Saden parce que c'est vrai. Il a
exactement.
De la chance.
C'est quelqu'un qui a la baraka. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit depuis très longtemps.
Donc, on ira en finale.
On dit que Saden zed zahro fi dahro. Alors, merci d'avoir été avec nous. On termine avec Sarah Matrlini. Et à Sarah. Et bonne chance pour l'équipe nationale demain. Et on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Bye bye.
عينك ما تخليني يا صار ما تخليني يا صار.